Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui scrute la vie des Européens. Plus de 12% de chômage, en hausse constante d'ailleurs, une croissance en berne pour la troisième année consécutive, des tensions sociales qui ne font qu'augmenter. Voilà pour l'Italie et la tâche se complique pour Matteo Renzi qui peine à relancer la troisième économie de la zone euro. Le plus jeune chef du gouvernement italien avait pourtant suscité beaucoup d'espoir à son arrivée au pouvoir après les mois d'austérité imposés par Enrico Letta, car son programme était plutôt ambitieux avec une réforme par mois. Sauf que 9 mois plus tard, Matteo Renzi est loin d'avoir atteint son objectif. Une réforme devrait quand même passer dans les jours à venir, celle du marché du travail, le fameux Jobs Act. Une réforme arrachée aux forceps, aux syndicats et à la gauche de son parti. Et il y aura sans aucun doute un prix à payer. Sa popularité pourrait bien s'effriter. C'est le reportage de Mathilde Ouvillain.
Ciò che noi stiamo facendo è la più grande riforma di sinistra mai fatta nella storia del mercato del lavoro italiano.
Ce que nous sommes en train de faire, c'est sans doute la réforme la plus à gauche de toute l'histoire des réformes du marché du travail italien. Matteo Renzi est sur scène, meeting de fin de campagne pour les régionales anticipées à Bologne, Émilie-Romagne, bastion historique de la gauche et du syndicalisme en Italie. Le chef du gouvernement, et toujours chef du Parti démocrate, tente de donner une teinte sociale à sa réforme visant à libéraliser le marché du travail. Cette réforme, c'est le fameux Jobs Act, la réforme qui sonne le glas du contrat à durée indéterminée, remplacé par un CDI flexible. Objectif, réduire le fossé entre les travailleurs surprotégés et les précaires. Une réforme qui ne convainc pas, et de loin, les syndicats. Maurizio Landini, secrétaire général de la FIOM, est en guerre ouverte avec le gouvernement Renzi.
L'idée que nous ne partageons pas et qui est erronée selon nous, c'est de dire que l'on peut défendre l'emploi, créer de l'emploi et relancer le système industriel de notre pays en facilitant les licenciements, en réduisant les droits, en supprimant la médiation sociale et en disant qu'il suffit de réduire les taxes aux entreprises et que cette liberté d'action pour les entreprises est nécessaire pour relancer l'économie de notre pays.
Ce que les syndicats italiens ne supportent surtout pas, c'est l'arrogance avec laquelle le chef du gouvernement, chef d'un parti de centre-gauche, les a marginalisés, relégués au rang de dinosaures, court-circuités et mis face à leurs propres contradictions. 25 octobre, à Rome, la CGIL convoque une manifestation massive contre le Jobs Act dans le cortège essentiellement des retraités. Crise de la représentation syndicale et conflit de génération. 14 novembre, ce sont les jeunes étudiants et précaires qui descendent dans les rues des grandes villes de toute l'Italie. Le taux de chômage des 15-25 ans dépasse 44% dans le pays. Une grève nouvelle génération, le sciopero sociale, la grève sociale, celle des stagiaires, des CDD, des intérimaires, de ceux qui n'ont pas de travail et n'osent même plus en rêver, une grève de ceux qui n'ont pas le droit de grève. Dans le cortège, certains avouent avoir pris une journée de maladie pour manifester. Biagio Quattrocchi, jeune chercheur en sciences sociales, est un des animateurs du mouvement en Italie.
C'est bien sûr une réponse à la crise de la représentation syndicale. Les organisateurs de la grève sociale ne revendique aucun lien avec les organisations syndicales traditionnelles. L'idée, c'est plutôt d'organiser une coalition de gens différents qui vont tenter de représenter leurs conditions de travail et tenter de reconstruire des lieux de négociation pour demander de nouveaux droits adaptés à la complexité de la situation actuelle. Évitez donc toute référence à des droits symboliques qui appartiennent au passé.
Pas question de défendre le fameux article 18 qui protège les salariés contre les licenciements abusifs, article que Matteo Renzi veut supprimer mais auquel s'agrippent les syndicats. Cela dit, la jeune génération partage avec les syndicats traditionnels une critique virulente de la réforme du marché du travail du gouvernement Renzi.
Nous contestons le Jobs Act de Matteo Renzi parce qu'il institutionnalise la précarité dans le marché du travail. La précarité n'est plus considérée comme une situation exceptionnelle, comme dans les précédentes récente réforme du marché du travail dans les années 90. Il faudrait donc réinventer tout un alphabet de droits pour les précaires, qui représentent 60% de la population active en Italie.
Or, en Italie, il n'y a ni salaire minimum, ni revenu minimum d'insertion garanti par l'État. Les jeunes Italiens, déjà rodés à la précarité, demandent juste un minimum de sécurité pour pouvoir se projeter dans l'avenir et pas seulement la promesse de jours meilleurs une fois la crise passée.
Le reportage en Italie de Mathilde Ovilla.
Les jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, vous vous adressez à tous ceux qui voudraient découvrir l'Europe à moindre frais, tout en faisant des rencontres. Un réseau existe pour cela et pour les aider dans leur démarche. Il s'agit de Workaway, littéralement travailler ailleurs, un système, Eve, qui s'inspire d'un ancien mouvement hippie mis au point dans les années 70 en Angleterre.
Oui, exactement. Le Workaway est en effet un dérivé du woofing. Et là aussi, j'imagine, un petit effort terminologique s'impose. À l'origine, le woofing proposait aux jeunes Anglais de partir travailler quelques heures à la campagne le week-end dans des fermes bio, littéralement working weekend on organic farms, woof. En échange de ces heures de travail bénévole, les jeunes citadins étaient logés et nourris. Il s'agissait donc de répondre à leur envie de se rapprocher de la terre et du rythme de vie de leurs grands-parents, dont ils s'étaient généralement largement éloigné dans les années 70. Et ce système a fait ses preuves, car le woofing existe encore aujourd'hui. Il y a des antennes un peu partout, en Europe et dans le monde.
Et le Workaway réhabilite donc cette démarche.
En quelque sorte, oui, sauf que cette fois-ci, il s'agit de rassasier l'envie d'ailleurs, de découvrir des paysages et de faire des rencontres. Mais surtout, son champ d'action s'est éloigné de l'agriculture bio. Le Workaway propose en effet de partager la vie d'une association, quelle qu'elle soit, d'une institution ou d'une entreprise, quelques heures par jour, quelques jours par semaine.
Alors Eve, à qui s'adresse ce réseau ?
Alors officiellement, il n'y a pas de limite d'âge, mais disons que la plupart des intéressés ont moins de 30 ans. Cette formule est surtout plébiscitée par les étudiants qui font un gap year, une année sabbatique, une année de césure en marge de leurs études. En France, la pratique n'est pas très répandue, mais dans les pays anglo-saxons, ils sont nombreux à vouloir prendre le temps de la réflexion entre deux diplômes. C'est aussi le moyen rêvé d'apprendre ou de consolider ses bases dans une langue étrangère. Cette formule permet en effet de découvrir un pays et une culture sans trop dépenser, puisque le gîte et le couvert sont pris en charge. Il n'y a pas de durée maximale ou minimale, d'ailleurs, du Workaway. C'est aux intéressés de gérer cela directement entre eux.
Et concrètement, comment s'y prend-on ?
Eh bien, justement, tout se passe sur Internet. Le site workaway.info propose de mettre en relation les jeunes motivés avec les autres qui ont besoin d'un coup de main. Il faut pour cela se créer un profil et payer une cotisation de 22 euros pour 2 ans. Certaines annonces sont également mises en ligne sur le compte Facebook du réseau, qui est suivi par 60 000 personnes environ. Une fois inscrit, c'est à vous de contacter les autres potentiels en fonction de la langue, du pays ou de l'activité que vous souhaitez exercer. En quelques clics sur le site, j'ai dégoté par exemple une annonce pour travailler 2 jours par semaine à préparer des chalets dans les Alpes. Une autre annonce pour retaper une maison familiale en Toscane, la même mais en Norvège. Cette fois, ou plus loin, pour aider un artisan à fabriquer des didgeridoo, vous savez, l'instrument de musique en Australie. Bref, tout un programme.
Et pour finir, Eve, je crois qu'il est vraiment important de dire à nos auditeurs qu'il faut lire le compte-rendu de ceux qui ont déjà séjourné chez leurs hôtes potentiels.
Oui, tous les blogs d'anciens insiste là-dessus, c'est indispensable. C'est le seul moyen de se faire une opinion fiable du lieu où l'on risque de mettre les pieds. Car comme dans tous ces sites gérés, auto-gérés par les utilisateurs, il y a forcément des abus. D'abord, sur le temps passé à travailler, hein, il ne s'agit pas de faire du bénévolat. Le but est de garder du temps dans la semaine pour visiter, pour découvrir, et donc de gérer son temps comme on l'entend. En moyenne, le Workaway ne doit pas vous occuper plus de 5 heures par jour pendant 5 jours. Voilà, c'est le maximum. Attention également, il ne s'agit pas d'un stage, le but n'est pas d'apprendre, mais de donner un coup de main et donc d'effectuer normalement des tâches censées être faciles.
Merci Eve, à la semaine prochaine dans Accent.
À la semaine prochaine.
Très sévèrement ébranlés par l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, l'été 2013, les agriculteurs croates sont à la recherche de nouvelles solutions pour s'en sortir. L'une d'entre elles pourrait paradoxalement remettre au goût du jour les circuits courts du producteur au consommateur. Plusieurs AMAP ont ainsi vu le jour en Croatie. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme AMAP, c'est l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le développement des zones rurales, c'est d'ailleurs l'une des orientations de la nouvelle politique agricole commune. Le reportage de Laurent Berthaud et de Jelena Pertoric à 1 heure de la capitale Zagreb.
Laver la salade, nettoyer les poireaux, couper les morceaux de carottes rongés par les lapins, une tâche qui se répète chaque matin, juste après avoir récolté les légumes. Des légumes bio, c'est le choix que la famille Veselic a fait il y a 10 ans déjà. Et il y a 3 ans, l'exploitation a gagné de nouveaux clients en intégrant une AMAP. Ivona Veselic, la jeune maraîchère, ne le regrette pas.
Tous les mercredis, nous allons à Zagreb pour livrer les légumes aux clients de l'AMAP. Et tous les 2 jours, nous livrons également nos légumes à des magasins de plusieurs grandes villes de Croatie qui ne vendent que des légumes bio. Sinon, on va aussi sur les marchés.
Le mouvement des AMAP reste encore très timide en Croatie. On en dénombre moins de 10 dans tous les pays. Un marché de niche qui ne connaît pas la crise dans un pays où, en 2013, la production de végétaux a chuté de 12% et le revenu agricole de près de 13% par rapport à 2012. Les exploitations sont essentiellement familiales. 10 d'entre elles disparaissent chaque jour. Les agriculteurs croates ont dû gérer tour à tour l'entrée de leur pays dans l'Organisation mondiale du commerce, la sortie d'un marché commun régional sur lesquels leurs produits étaient compétitifs et enfin l'entrée dans l'Union européenne avec son lot de produits agricoles importés et bon marché. Sunčana Pešak du réseau écologiste ZMAG.
C'est surtout le secteur laitier qui a été touché, mais aussi la culture des légumes et des fruits. En Croatie, la diversité du territoire permet d'avoir des cultures très différentes. On pourrait développer notre production, pourtant on a peu de cultures de fruits et légumes. Notre production ne suffit même pas à satisfaire nos besoins. On subventionne plutôt la production de céréales, un des rares produits d'exportation aujourd'hui. Mais en réalité, c'est une perte pour notre secteur agricole, car en exportant de la matière première, on perd la valeur ajoutée.
Il y a 20 ans, en Croatie, les supermarchés étaient peu nombreux et les consommateurs avaient l'habitude d'acheter chez les petits commerçants locaux. Aujourd'hui, ils sont friands de fruits et légumes importés et bon marché. C'est pourtant en relançant une production familiale et locale que l'agriculture croate pourrait reprendre des couleurs, selon Sunčana Pešak.
Il n'y a pas de solution miracle pour sauver l'agriculture croate du jour au lendemain. Mais il est essentiel de se tourner vers le marché intérieur et de privilégier un lien direct entre les producteurs et les consommateurs. Actuellement, les producteurs cherchent plutôt à s'unir pour mieux s'organiser face aux grands distributeurs et aux importations. Car s'il veut placer ses produits dans un grand centre commercial, l'agriculteur doit être en mesure de proposer de grandes quantités. Difficile de le faire en Croatie où la taille moyenne des exploitations est de 5,3 hectares.
L'avantage des AMAP, c'est justement d'inverser ce fonctionnement, ce dont se réjouit la maraîchère Ivona Veselic.
C'est parfait comme système, bien mieux que de vendre à des magasins, d'abord parce qu'on connaît nos clients, on a un contact direct avec eux. En fait, au début de chaque mois, ils paient pour les 4 paniers qu'ils vont recevoir au fur et à mesure, soit un grand, soit un petit. Ensuite, on n'a plus qu'à les livrer et tout repose sur la confiance, en fait.
Et le prix ?
En fait, ça coûte moins cher pour les clients des AMAP que pour ceux des magasins. Il y a 40, 50, 60 familles. Ça représente un gros volume de légumes, des ventes qui sont assurées. Donc, on les vend un peu moins cher qu'au magasin.
Un parking de Zagreb, 16h, le même jour. On y retrouve Ivona, mais aussi des producteurs de lait. Les clients, eux, sont au rendez-vous des fidèles.
Je m'appelle Marine. Une AMAP nous garantit que les produits que l'on achète ici ne proviennent pas d'un marché ou d'un distributeur. Ils ne passent pas par un intermédiaire. Je viens de récupérer mes bouteilles de lait, par exemple. On prend aussi des clémentines, des carottes, surtout les légumes. J'aime bien ça.
Des clients satisfaits, des agriculteurs qui parviennent à vivre de leur production. Les AMAP montrent le chemin pour relancer la production agricole croate. Pourtant, malgré les programmes européens, l'État est encore loin d'encourager franchement ces nouvelles formes de production. Il y a quelques semaines, la responsable d'une AMAP a écopé d'une amende pour avoir vendu ses produits sur un parking.
Reportage de Laurent Berthaud, réalisé avec le soutien de l'Union européenne.
I am Africa. I am Africa.
Et quand l'art relie donc deux continents, l'Europe à l'Afrique, la photographe camerounaise Angèle Etoundié Samba et deux associés, toutes les trois basées à Amsterdam, ont lancé en octobre une nouvelle revue, Intense Art Magazine, I Am Africa, un semestriel basé donc aux Pays-Bas, mais centré sur l'art, la mode et l'architecture, faite par les femmes d'Afrique et de la diaspora. Sabine Sessou.
Angèle Etoundié Samba est connue pour son travail des photos qui célèbrent la femme africaine. Après ses études aux Pays-Bas, elle s'est installée à Amsterdam où elle vit depuis plus de 20 ans, une ville où elle a rencontré ses deux amies françaises, Céline Serreur et Françoise Mouly, toutes deux passionnées d'art. Elles l'ont suivie dans son projet et toutes les trois ont financé sur fonds propres le magazine féminin I Am Africa. Cette revue, lancée en octobre, traite d'un terrain foisonnant et pourtant largement méconnu, celui de la création en Afrique, où les femmes sont en train de prendre le pouvoir. Elles sont peintres, photographes, architectes ou stylistes de mode, mais aussi directrices de galeries d'art et commissaires d'exposition à l'international, comme Koyo Kuo, une Camerounaise basée à Dakar, au Sénégal. La revue se vend 25 euros, le numéro sur abonnement. Elle est soutenue par le fabricant néerlandais de tissus Vlisco, célèbre pour ses imprimés wax qui se vendent partout en Afrique. La revue est en quête d'autres sponsors. Elle affiche en attendant son caractère professionnel. Chacun de ses numéros portera sur un pays précis, le premier étant consacré au Cameroun. Les hommes n'auront la parole que dans une seule rubrique, à condition que leur travail s'intéresse aux femmes. Au-delà du monde de l'art, le public visé comprend toutes les femmes noires en mal de miroir qui ne soient pas déformants. I Am Africa dispose déjà d'un site internet basé à Amsterdam et alimenté par des rédactrices issues du continent africain. Cette nouvelle entreprise fait le pari de montrer les femmes africaines à taille réelle, fortes, déterminées et occupant déjà une place de premier plan.
Starane Butsutna.
Vous pensiez que le pays de la bière, eh bien, ce serait l'Allemagne ou l'Irlande. Faux, c'est la République tchèque. Et à Prague, la mode est aux micro-brasseries, des lieux où l'on fabrique une bière authentique, où bien sûr, on la consomme. Petit tour avec Alexis Rosenzweig dans l'une de ces brasseries ouvertes le mois dernier dans le quartier de Vinorati.
Depuis une dizaine de jours, la bière brassée sur place coule à flot et les salles sur deux étages ne désemplissent pas. Il faut réserver à l'avance, surtout si on veut une table d'où on peut voir les cuves et le processus de production à travers les grandes baies vitrées. À moins d'1,50€, le demi-litre reste à consommer avec modération. La bière de Vinohradi, ou comment renouer avec une tradition vieille de plus d'un siècle, car c'est ici, dans ce quartier qui doit pourtant son nom aux vignes royales, qu'a été ouverte cette brasserie en 1893. Réquisitionné pendant la Deuxième Guerre mondiale, le bâtiment, comme toutes les propriétés privées, a ensuite été nationalisé par les communistes qui n'ont jamais relancé la production. Après la chute du régime, l'espace devient l'enjeu d'importantes tractations entre promoteurs immobiliers et autorités locales dans ce coin très prisé de la capitale. Un incendie ravage une partie de l'ancienne brasserie au début des années 2000. Quelques années plus tard, un ancien journaliste et ses acolytes s'associent avec un brasseur réputé pour reprendre ici la fermentation de l'orge et du houblon. Le défi est de taille. Cela dit, il y a des paris plus risqués qu'une brasserie à Prague, les Tchèques étant les plus gros consommateurs de bière au monde selon différentes études, avec plus de 150 litres par habitant chaque année. La bière reste, mais les habitudes changent, lentement mais sûrement. En effet, tandis que beaucoup des tavernes locales restent enfumées de jour comme de nuit, la nouvelle microbrasserie de Vinohradi est un espace entièrement non-fumeur.
Et Accent d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez-nous tout de suite sur le site RFI.fr ou sur notre page Facebook. Et puis restez surtout à l'écoute sur RFI. Dans un instant, un peu de patience, les infos.